matière à penser, Patrick Boucheron.
Bonsoir, deuxième émission consacrée à des colonies. Décoloniser l'universel, élargir la bibliothèque de la philosophie, voilà un programme. Mais en fait, voilà un beau programme. Il faut pas croire lorsque on entend les controverses sur le décolonial ou le postcolonial que tout ça est triste et hargneux. En fait, tout ça est joyeux. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir à ce micro Nadia Yala Kisukidi. Bonsoir Nadia, vous êtes maîtresse de conférences en philosophie à l'université Paris 8, directrice adjointe des logiques contemporaines de la philosophie, c'est un laboratoire, et co-curatrice, on va en parler, avec Sarah Alonso Gomez de la Biennale d'art contemporain Yango à Kinshasa en 2020. Vous parlez de Laetitia Africana, c'est joyeux. Pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire Laetitia Africana?
Alors, Laetitia Africana, c'est un thème, une idée que j'avais développée lors de la première rencontre des ateliers de la pensée de Dakar. Et le mot venait pour résister à une mélancolie théorique et à une certaine mélancolie liée à la perte, au deuil, qu'on retrouve dans un ensemble d'écritures postcoloniales. Et en lisant Césaire, en lisant beaucoup d'auteurs africains ou afro-descendants, caribéens, etc., un ensemble d'auteurs, en fait, insiste sur la manière dont de nouvelles formes de vie, de nouvelles formes de résistance se sont déployées malgré la mort. Et la Laetitia Africana insiste là-dessus. Donc l'idée de joie, ce n'est pas, comment dirais-je, une espèce de pis-aller consistant à dire « nous n'avons pas souffert, nous sommes robustes et musclés et nous triompherons de tout ce qui a voulu nous abattre ». Ou pire, ce serait la pire des manières de le comprendre, sur les faces nègres, demeure toujours ce grand rire banania, mais l'idée de Laetitia, elle est vraiment là, en tout cas, pour essayer de contrer une forme de mélancolie théorique. Qu'est-ce que c'est que faire ou produire des écritures postcoloniales et décoloniales, en fait, sans finalement être dans une écriture répétitive qui est celle de la critique du grand récit de la modernité. Et voilà ce qui m'intéressait.
Vous êtes philosophe, Nadia Yala Kisukidi, vous êtes spécialiste de Bergson.
Oui.
Et donc on retrouve le rire d'une certaine manière, mais on retrouve aussi ce que vous appelez l'humanité créatrice, que vous appelez avec lui l'humanité créatrice, parce que vous lui avez consacré, au fond, votre travail de chercheuse.
Et il est vrai aussi que la question de la joie... Elle est bergsonienne, elle structure complètement l'écriture de Bergson, notamment dans ses derniers livres. Et ce qui est intéressant, en fait, dans l'idée de joie, c'est que la joie bergsonienne n'est pas un plaisir, elle est constamment liée à un acte de création. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelque chose de l'intérêt de la vie, à chaque fois qu'un intérêt vital est en jeu, en fait, et à chaque fois qu'un être humain s'est engagé dans un acte de création, malgré les contraintes qui se posent sur lui, en fait, quelque chose comme une joie apparaît, mais qui vient toujours en excès.
Et ça a à voir aussi avec ce que Aimé Césaire appelait à la toute fin de sa vie des silos d'énergie, de combativité, où effectivement on peut aller chercher, où tout le monde peut aller chercher, puisque c'est au fond la question de l'universel qui est posée, de quoi s'encourager.
Mais chez Césaire aussi, ce qui est vraiment très fort, et ça a été... très bien montré, je trouve, par le poète Daniel Maximin dans le livre hommage qu'il lui a fait, Aimé Césaire, Frère Volcan, où il montre effectivement comment toute cette volonté de reprendre l'initiative de l'histoire, l'initiative de l'écriture de l'histoire, est au cœur justement de la pensée césarienne. Et Césaire est un penseur de l'espérance, est un penseur aussi de la joie, mais c'est aussi un penseur de la combativité politique. Et je citerai un étudiant auquel je suis très attachée, Chris Cyril, qui a fait un très beau travail sur Césaire, donc il faut aussi citer ses étudiants, qui a fait toute une réflexion justement sur la notion de vulnérabilité chez Césaire, et qui montre effectivement comment, chez cet auteur, le sujet vulnérable n'est pas un sujet cassé, n'est pas un sujet complètement défait en fait, mais c'est un sujet aussi qui peut surmonter la douleur en produisant quelque chose.
Alors vous parlez en enseignante, effectivement réfléchissons ensemble à ce que c'est que enseigner la philosophie aujourd'hui. C'est ce que vous faites à l'université de Paris 8 et vous voulez simplement élargir la bibliothèque, ouvrir les perspectives, compliquer nos généalogies. Philosophie occidentale est, dites-vous, presque un pléonasme. Vous devez, vous voulez nous faire entendre la spécificité, au fond, de ce syntagme, philosophie occidentale.
Alors, l'idée de philosophie occidentale comme pléonasme, elle n'est pas de moi, elle vient de Fabien Eboussi-Boulaga, qui reprend cette idée dans un livre important qui s'appelle « La crise du Muntu », qui est paru en 1977. Alors, c'est un livre que je cite beaucoup et qui est très important, en fait, et qui est très important, je pense, pour les historiens de la philosophie et les philosophes qui entendent justement un petit peu déconstruire l'histoire de la philosophie, ou plutôt déconstruire la manière dont la philosophie a pu se raconter à elle-même sa propre histoire au sein de l'université en Occident. Mais cette histoire, effectivement, elle a voyagé, en tout cas, ne serait-ce qu'avec... lâchons le mot, avec la colonisation, puisque un ensemble d'institutions et les corpus se sont aussi exportés, en fait, dans les institutions créées sur les nouveaux espaces colonisés. Et donc, ce livre, en fait, pose simplement une question. Si on part du principe que philosophie occidentale est un pléonasme, qu'est-ce qu'on fait quand on enseigne la philosophie hors de ces lieux privilégiés de naissance et d'origine ?
C'est-à-dire le miracle grec.
Le miracle grec. Et là, il est intéressant, je pense. Alors, ça fait toujours un peu bondir quand on parle de ça. Mais c'est quoi le miracle grec ? C'est quoi ce, ne serait-ce déjà que le
vous
nom
avez écrit
miracle ?
Vous
oui,
avez
tout à
écrit.
Fait. Dans un, il y a eu un. Juste pour resituer un petit peu les choses, avec des collègues et amis, donc un collègue de Paris 8, Mathieu Renaud. Un collègue aussi, historien panafricain, Hamzat Boukhari Yabara, et une collègue anthropologue Pauline Guège. Nous avons organisé un colloque il y a cela à peu près 3 ans sur la notion d'afrocentricité, bon, une notion aussi qui a suscité beaucoup de polémiques, en tout cas au sein de l'historiographie africaine française. Et chez les africanistes. Et ce qui est intéressant.
Et un numéro récent de Tumulte, c'est bien ça.
Et un numéro récent de Tumulte.
Qui vient de paraître en 2019.
Exactement.
En rencontre.
Exactement. Et lors de ce colloque, moi n'étant pas anthropologue et n'étant pas historienne, il m'intéressait en fait de revenir sur les écritures d'un ensemble d'auteurs africains et la manière qu'ils avaient eu justement de se rapporter à cette idée du miracle grec. Qu'est-ce qu'elle signifie ? Est-ce qu'on peut l'accepter comme telle ? Ou comment peut-on la déconstruire ? Et un auteur, là aussi, je pense à Cheikh Anta Diop, donc, qui lui aussi a suscité pas mal de passion, a entrepris tout un travail justement de déconstruction de l'idée du miracle grec. Et moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'est de voir ce que faisait Cheikh Anta Diop de cette idée, ce qu'il en faisait avec beaucoup de bonheur parfois, mais avec parfois aussi des approches ou des orientations qu'on peut totalement critiquer. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, chez Cheikh Anta Diop, c'est d'essayer de produire, en tout cas, une autre cartographie la pensée, en fait, qui n'est pas adossée à une théologie des origines, en fait. Et je pense que écrire l'histoire de la philosophie à partir de ses origines, ou en tout cas en mythologisant ses origines, ce n'est pas écrire de l'histoire, c'est faire de la théologie.
Et c'est ce que vous écrivez avec Pauline Guège en ouverture justement de ce numéro afrocentricité. Il ne s'agit pas tant de reprendre, soutenir ou contester celles et ceux qui se réclament du courant afrocentrique que d'interroger la manière dont les discours et les savoirs se reconfigurent quand ils prennent pour centre une Afrique réelle ou imaginée. Hein, réelle ou imaginée. Ça, c'est important parce que ça veut dire qu'au fond, c'est pas une prise de position sur ce que doit être la bibliothèque. C'est simplement un exercice de pensée et de justice.
Un exercice de pensée et de justice, au sens où il s'agit... c'est toujours intéressant de voir les récits, en fait, ou la manière dont les disciplines se racontent à elles-mêmes leur propre histoire.
Oui, la philosophie se la raconte.
Et la philosophie se la raconte, sans mauvais jeu de mots, et elle se la raconte d'une manière qui est tout à fait problématique dès le XVIIIe siècle. Et un ensemble d'auteurs, même enfin d'historiens, là aussi, de la pensée, sont remontés plus loin, la manière dont sont formées les universités. Je pense au travail, par exemple, d'Alain Libera, qui montre aussi comment une bibliothèque intellectuelle arabe a pu être exclue, en fait, de nos disciplines. Il est intéressant de reprendre cela et de se dire, mais qu'est-ce que je fais, quel type d'histoire ou quel type de philosophie ou quel type d'histoire de la philosophie j'écris quand je démonte ce récit des origines et quand je démonte, en tout cas, ces terres d'élection qui sont adossées à ce récit. Et ça, c'est un travail qui m'intéresse. Alors, il y a aussi, c'est certes un travail de réparation. Mais l'enjeu, comme je le disais, c'est pas de sauver une discipline ou nécessairement de se sentir responsable des devenirs d'une discipline. Un des enjeux, c'est, comment dirais-je, de maltraiter un petit peu le signifiant philosophie et de regarder simplement ce qui se passe ailleurs, quitte à finalement perdre la philosophie en chemin.
Bagdad, Fès, Tombouctou sont d'autres lieux de la vie philosophique, écriviez-vous dans Le Monde cet été.
C'est Souleymane Bachir Diagne qui l'écrit.
Ah pardon, excusez-moi, mais vous le citiez pour effectivement montrer combien, au fond, pour parler de Souleymane Bachir Diagne, on ne blesse pas l'idée d'universel en élargissant notre compréhension de la philosophie. Parce que c'est ça la clé, au fond, ou en tout cas la clé polémique. Une des manières que les polémistes auraient de répudier cette démarche, c'est de dire que, au fond, c'est l'universel qui en sortirait, au fond, blessé.
Oui. Alors, sur l'universel, je trouve que c'est aussi une discussion très délicate, dans la mesure où, je ne sais pas si je ne me sens pas en mission et je ne me sens pas le devoir de sauver l'universel ou, avec un petit esprit revanchard, je ne me sens pas le devoir non plus de l'écraser, de le piétiner. Et effectivement...
Oui, mais vous connaissez l'usage polémique de ce terme. Vous savez c'est une manière, au fond, de comédia dell'arte où on va sans cesse agiter l'universel contre le communautarisme.
Oui, bien sûr. Mais je pense que dans un débat intellectuel et universitaire mené par des chercheurs, il est clair que la polémique vient s'abattre sur les travaux et sur les qui sont produits au sein des universités, mais je pense qu'un des enjeux pour les universitaires, c'est de ne pas y répondre. Oui. Pas au sens où il faudrait faire comme si elle n'existait pas, mais au sens où on peut pas, déterminer nos travaux en essayant d'être rassurant. C'est pas l'objet du travail universitaire que d'essayer d'être rassurant pour des médias, en fait, qui précisément critiquent, démontent et dénigrent, en fait, leurs travaux. C'est pour ça que j'essaie d'être assez rigoureuse. Il est vrai qu'il faut distinguer des usages médiatiques qui sont pris dans la polémique de l'universel, qui ont quelque chose de très patrimonial, de très affectif. De toute façon, l'universel, en tout cas dans ces débats-là, est souvent mobilisé de manière très incantatoire. Je ne sais pas ce qu'on brandit quand on brandit l'universel, mais très souvent, quand il est brandi dans les débats politiques, c'est simplement pour ériger un universel qui va opérer, une stigmatisation de paroles jugées identitaires. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de me dire que en éclatant la bibliothèque, je vais montrer patte blanche en disant « Regardez, je suis toujours universaliste, n'ayez pas peur, etc. » Je n'ai pas à me soucier de cela, en fait. Le travail intellectuel, le travail du chercheur consiste simplement à continuer à explorer indépendamment des effets peut-être parfois politiques que ces travaux peuvent avoir. Je trouve que c'est dans un moment un petit peu difficile, je trouve, sur le plan intellectuel.
Et alors, je vais vous reposer la question différemment. Merci. Différemment, Nadia Yala Kisukidi. Pourquoi vous avez travaillé sur Bergson et pourquoi vous ne vous contentez plus aujourd'hui de travailler sur Bergson?
Parce que, déjà, j'ai une approche très empirique du travail de chercheur. C'est-à-dire que, on cherche aussi en fonction de ce qu'on rencontre, et les rencontres, elles sont contingentes. Donc, on peut tout à fait être amené dans un parcours de vie à commencer sur un objet, à rencontrer d'autres objets qui font également sens, sans que ces objets, même si leur nature est différente, entrent nécessairement en conflit. Donc ça, je défends ce travail empirique et contingent de la recherche. Ensuite, il n'y a pas de... les parcours sont pleins. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait... je m'intéresse autant à la philosophie française qu'un ensemble de philosophes d'Afrique centrale, etc. Et je vois pas de divergence ou de nécessité d'avoir à forcer la cohérence entre ces auteurs qui maintenant sont tous dans ma bibliothèque et dialoguent tous les uns avec les autres.
Et dans votre enseignement ?
Et dans mon enseignement, bien sûr.
Dites-nous comment vous faites.
Alors, juste de manière très concrète, je peux faire un cours sur Sartre, un cours sur Moudimbe, la question d'un philosophe africain, congolais du de la deuxième moitié du XXe siècle. Il s'avère que c'est aussi deux cours qui sont très heureux dans la mesure où Moudimbe est aussi un très grand lecteur de Sartre et il s'est servi précisément de la philosophie sartrienne pour remobiliser une certaine figure du sujet libre qui lui permettait justement de contester la manière dont le sujet africain avait été fabriqué comme objet par la bibliothèque coloniale. Donc entre tous ces auteurs, la pensée circule en fait. Et ce qu'il y a très beau finalement à enseigner la philosophie et peut-être à enseigner des auteurs qui ne viennent pas des mêmes continents, c'est que les auteurs se lisent et ce qui voyage en fait, ce sont des livres en fait qui sont remodelés à chaque fois par des lieux et les continents qui les adoptent. Et donc Moudimbe est un penseur sartrien et il appelle d'ailleurs, quand il parle de Sartre comme d'un penseur africain.
Et de Moudimbe d'ailleurs, vous retenez entre autres choses ce verbe magnifique qui va vous guider à Kinshasa, on en parlera tout à l'heure, reprendre. Mathieu Pot-Bonneville a écrit un livre qui s'appelle Recommencer. Ouais. Et là, il s'agit de reprendre. C'est-à-dire pas simplement reprendre pied, encore moins reprendre racine, pas nécessairement revenir au pays, même si de cela on peut parler. Mais quoi? Reprendre lien, reprendre langue?
Alors déjà juste, ça me permet de parler d'un auteur que j'apprécie beaucoup et avec lequel je travaille, de Sinzo Hanza, qui est un écrivain congolais qui a écrit un roman magnifique qui s'appelle Généalogie d'une banalité et qui est également artiste plasticien. Et donc ce verbe-là, il l'a mis en avant, je vous en parlerai un peu plus tard, je garde des petits secrets pour le cours de cette émission. Et il a mis en avant ce terme qui, en fait, constitue le dernier chapitre d'un livre important de Moudimbe qui s'appelle The Idea of Africa. Mm-hmm. Et qui traite justement des questions de l'art contemporain, etc. Et une des questions ou un des fils conducteurs qui intéresse Moudimbe est le suivant. Qu'est-ce que ça fait, donc, quand on reprend des concepts, qu'on les ressaisit pour nos lieux, pour les situations qui sont les nôtres. Et sachant que toute reprise n'est jamais une imitation, en fait, une imitation servile, mais que toute reprise effective exige, en tout cas, une recréation et un recommencement.
Alors, ce recommencement, cette recréation, elle prend pour vous la forme du travail académique, pas tellement militant, vous qualifiez pas de militante?
Oui, je me qualifie pas de militante, mais pas par gêne, au sens où je considère pas qu'être militant disqualifie, par exemple, le type de travaux qu'on peut effectuer dans le champ universitaire, mais plutôt par respect pour un ensemble, puisque j'ai beaucoup d'amis qui, eux, sont militants, et par respect, donc, pour le travail qu'ils effectuent, qui est un travail que je n'effectue pas, en fait.
Mais alors, justement, revenons sur cette question d'afrocentricité. Dans ce numéro de Tumulte, vous mettez le mot au pluriel. Et je pense que c'est quand même important pour justement reprendre sans recommencer les débats justement qui ont pu accompagner la réception de Cheikhanda Diop.
Alors ce qui est intéressant, donc déjà il y a Afrocentricity, il faudrait le dire en anglais, c'est un terme qui a été créé par Molefiketé Asante et qui renvoie à un mouvement théorique, intellectuel et aussi qui engage un ensemble de pratiques sociales qui a été créé aux États-Unis dans la deuxième moitié, enfin la fin du XXe siècle en fait. Et ce mouvement vise précisément à reprendre les humanités africaines, à les reconstruire, sans passer finalement par le centre qu'est l'Europe. Donc il y a tout ce travail de réécriture qui va être mis en place. Alors on pourra reprocher énormément de choses à ces écritures afrocentriques, mais ce qui est extrêmement intéressant en fait, c'est que le mot afrocentrique ou afrocentricité, c'est aussi un mot qui s'est pluralisé et qui a aussi énormément voyagé. Donc on pouvait en trouver un ensemble de déclinaisons qui signifient juste une chose, à savoir penser le monde et penser aussi le continent à partir de l'Afrique elle-même, en étant installé sur le continent. Quel type de discours produit-on sur le monde, sur la planète, en fait, quand on s'installe et quand on en Afrique et quand on produit ce discours depuis l'Afrique? Et donc, alors on pourra dire c'est une approche très édulcorée éventuellement de la première afrocentricité, mais ce n'est pas vraiment mon problème. Ce qui m'intéresse, c'est de voir en gros comment ce terme peut être justement repris et comment dans ces différentes reprises, il se pluralise.
Mais vous travaillez depuis ces afrocentricités, mais aussi depuis la diversité des positions diasporiques des afro-descendants. Parce que vous êtes, au fond, vous êtes issu du panafricanisme.
Je ne sais pas si je dirais ça. Le panafricanisme renvoie vraiment à une pensée politique qui m'est chère, qui a été très bien.
J'ai lu que vous aviez vécu, en tout cas dans votre enfance, à Bruxelles, dans un contexte panafricain.
Disons que je suis une
culturellement
fille,
en tout cas.
Ouais, culturellement et politiquement en fait. Après, il y a des histoires d'exil. Moi, je viens d'un milieu qui était très politisé et avec un père qui était opposant au régime de Mobutu, du maréchal Mobutu. Et cette opposition en fait a structuré toutes les productions de signification en fait dans lesquelles j'ai été élevée et qui ont nourri mes imaginaires d'enfance, d'adolescente et d'adulte aujourd'hui en fait. Donc moi, je suis très précise quant à la situation d'énonciation qui est la mienne. C'est-à-dire, je pense que je peux très facilement dire que je suis afro-descendante parce que j'y tiens. Donc, je n'ai pas une approche prescriptive des identités. C'est pas parce que mon père est africain que moi, je dois nécessairement revendiquer quelque chose quant à l'Afrique. Mais il s'avère que pour moi, ce lien avec le continent fait sens. Et donc, je le travaille. Mais je ne suis pas africaine. Pas au sens où je refuserais de l'être, j'aimerais l'être, j'espère qu'un jour je pourrais l'être pleinement, mais parce que je n'ai
jamais
vécu...
Ça, c'est la question du retour.
Ça vous
taraude, ça vous inquiète?
Cette question m'inquiète, mais là aussi, pour des raisons, je dirais, qui ne sont pas immédiatement liées à une espèce de fétichisation des origines, mais qui sont liées à des parcours, à des biographies, celles qu'on rêve, celles qu'on se choisit, et celles qui, avec lesquelles on a l'impression de pouvoir donner un sens à son existence. Et cette idée du retour, elle est liée à un ensemble. Bon, il y a toujours l'idée, chez les afrodescendants, de faire son retour, de revenir à la matrice qu'est le continent africain, mais le retour...
Ça, c'est pas votre idée. C'est pas votre idée. Si on met afrocentricité au pluriel, si on se bat contre toute forme d'identité un peu strictement définie, on peut pas penser en matrice.
Non, je pense pas la question du retour à... comme un retour à la matrice qui viendrait, authentifier ce que je suis et légitimer qui je suis, puisque je pense pas que le continent contienne ma substance ontologique, celle qui précisément pourrait déterminer qui je suis. Par contre, ce qui est intéressant quand on se dit afrodescendant, c'est pourquoi on se dit afrodescendant. Et cette afrodescendance, au-delà des questions culturelles qu'elle peut porter, elle a été façonnée par les rêves politiques qui m'ont été transmis et auxquels je tiens. Et ces rêves-là, ce sont des rêves très précis, ce sont les rêves qui ont été portés par les indépendances et les promesses de celles-ci. Et les promesses de l'indépendance, ou en tout cas des indépendances africaines, pour les Africains, consistaient à dire « vous pourrez vivre librement sur ce continent qui a été façonné, découpé d'une manière tout à fait singulière, en fait, qui a été structuré par une histoire de violence. Mais ce continent, en tout cas, peut porter désormais de nouvelles formes de vie à partir desquelles vous pourrez vous autodéterminer, en fait. » Et moi, j'ai grandi dans ce rêve-là. C'est un rêve d'exilé, mais en gros, l'enjeu maintenant, c'est de se dire quelle matérialité je peux donner à ce rêve.
The beach has a rich and magnificent history, full of adventure, excitement and mystery. Some of it bitter and some of it sweet, but all of it part of the beat, the beat, the began with a chant and a hum and a black hand laid on a native drum. Bantu, Zulu, Watusi, Ashanti, Ero,
Lecture, matière à penser, Patrick Boucheron.
Toujours en compagnie de la philosophe Nadia Yalakisoukidi, All Africa, c'est ce qu'on entend.
Oui, Patrick Boucheron, All Africa. Alors, All Africa, c'est une chanson tirée d'un album extraordinaire de jazz qui s'appelle We Insist, de Max Roach, qu'il a aussi écrit avec le parolier Oscar Brown et qui est sorti dans les années 60. Et cette chanson, qu'on vient d'entendre, elle est interprétée par Abbey Lincoln et avec un percussionniste assez important, nigérian, oui. Donc du continent africain, qui s'appelle Batunde Olatunji. Et ce morceau, en fait, présentifie un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, puisqu'il vise à construire un ensemble de liens, justement, entre toutes les diasporas qui sont venues du continent, qui ont connu des histoires différentes, qui ont connu ce que Glissant appelle le transbord ou le gouffre, à savoir qui ont été, au moment de la traite, des hommes noirs transportés hors du continent vers les Amériques. Mais cet album et cette chanson racontent aussi d'autres histoires de déplacement ou d'autres diasporas, en tout cas, ou d'autres luttes qui sont celles des mouvements des indépendances. Et voilà tout ce que ce disque raconte, particulièrement cette chanson d'Abbey Lincoln, enfin cette chanson portée par la voix d'Abbey Lincoln, qui est un hommage au rythme africain, mais qui est aussi un hommage à l'Afrique, puisque au fur et à mesure, elle va chanter tous les noms d'un ensemble de peuples, on entend dire Bantou, Zoulou, etc., Ashanti, dans cette chanson. Et j'avais envie qu'on l'écoute précisément parce que, pour deux raisons. Tout d'abord parce que ce morceau permet de voyager à l'intérieur de la complexité de l'idée de diaspora, qui a rien de normatif et qui est compliqué, qu'on peut tout à fait critiquer également. Mais toutes les histoires noires, en fait, issues en tout cas du continent africain, et la manière dont elles se sont recomposées autour de récits qui parfois collent, ne collent pas ensemble, etc. Et l'autre idée aussi, c'est que cette mémoire, c'est une mémoire sonore. Alors, oui. Il peut sembler que c'est très commun de dire cela, en fait. Mais la mémoire, c'est pas seulement la race, c'est pas seulement l'identité, c'est aussi des sons. Et dans ce morceau, on a à la fois des musiciens africains-américains, des musiciens africains, enfin un musicien africain, mais aussi des musiciens afro-cubains, en fait. Donc il y a toute cette histoire du rythme afro qui traverse les Caraïbes, les Amériques noires, l'Afrique, en fait, qui raconte aussi une histoire, en tout cas une mémoire des peuples noirs. Et c'est pour ça que j'étais sensible à ce texte.
Renouer ou reprendre l'oralité, la voix aussi, la question de la voix. On aurait pu d'ailleurs aussi écouter Nina Simone, puisque vous avez écrit sur Nina Simone. On aurait pu parler de, au fond, du retour au pays avec Nina Simone, qui termine sa vie au Libéria.
On aurait pu parler, mais la voix, je pense à des textes très importants d'Angela Davis, qui a énormément écrit sur les chanteuses de blues, donc Bessie Smith, etc., et qui revient aussi sur la manière dont, le chant, la voix, en tout cas dans les mondes noirs américains, mais c'est valable, je pense, on peut l'étendre, en fait, a été porteuse d'émancipation, en fait. Et là aussi, on a des écritures, en tout cas de la liberté, en fait, de la libération, qui ne passe pas simplement par une théorisation stricte, serrée, en fait, mais qui sont des écritures qui sont conscientes aussi d'elles-mêmes dans la manière dont elles se construisent comme un texte oral ou un texte chanté, en fait. Et c'est ce que j'aime, en tout cas, dans ces musiques, et c'est ce que j'aime dans ce jazz-là, en fait.
Vous avez fait du chant lyrique, oui. Nadia Yalakisoukidi, et on vous disait, vous avez une voix noire. Et en fait, non.
Non, j'ai une voix toute petite. J'ai une voix qui fait que je peux pas être une grande chanteuse, mais c'est pas grave. Non, on me l'a dit, parce qu'on fantasme beaucoup le corps noir, on fantasme beaucoup le corps de la femme noire, et on fantasme énormément la voix de la femme noire, qu'on rêve toujours très grave, très chaude, très maternelle, etc. Et donc, quand vous n'avez pas une voix grave, chaude et maternelle, ce qui est fondamentalement mon cas, vous vous retrouvez confronté à des représentations qui font que vous n'arrivez pas à chanter. Voilà.
C'est ça. Et d'une certaine manière, puisqu'on parle de ça, puisqu'on parle de ce que c'est qu'être une femme noire enseignant la philosophie, c'est pas toujours facile, en fait, dans le monde académique.
Je sais pas, je voudrais pas dramatiser ma situation. Parce que je suis en philosophie, je vois aussi comment se constituent les recrutements en philosophie et le peu de postes qu'il y a dans cette discipline, ce qui fait que la violence, en fait, du non-recrutement, elle est vraiment partagée par tout le monde. Donc je voudrais pas en faire quelque chose de très narcissique en revoyant ma position de femme noire, etc. Mais après, là aussi, où j'ai de la chance, c'est que c'est ce que peuvent renvoyer les étudiants avec lesquels j'étais amenée à travailler, les étudiants avec lesquels je continue à travailler, que ce soit en master et pour certains avec lesquels je dialogue en doctorat. Et la question, en tout cas, de la délégitimation des objets, de la délégitimation du corps, ce sont pas du tout des choses que ces étudiants-là me renvoient. Mais après, l'institution, dans ses conflictualités, parce que c'est ce qui est intéressant, les institutions sont conflictuelles, et elle peut produire effectivement des discours dominants, en fait, qui peuvent réduire en tout cas certains types d'individualité, à partir justement de cette approche classe, genre, race, qui font que, oui, vos discours ou vos paroles ne seront pas perçues comme étant consistantes ou valables sur le plan épistémique. Et ça, c'est effectivement une réalité.
C'est dans Esprit, je crois, que vous avez écrit un article qui s'intitule « Le mot noir et son double », où il est question, effectivement, également de la condition nègre d'Achille Mbembe, dont on n'a pas parlé. Et au fond, c'est quoi le double du mot noir ?
En fait, je voulais jouer... Ce texte, il a aussi une histoire précise. C'est bon, Achille Mbembe est venu à Paris 8 et des collègues et amis, Catherine Cocchio, Aura Touéra et Elsa Dorlin, ont accepté de se prêter au jeu de questionner ses textes, ses thèses, etc. Et moi, ce qui m'avait frappé, en fait, en discutant avec le traducteur de La critique de la raison nègre, donc le texte d'Achille Mbembe en anglais, donc le traducteur et l'historien Laurent Dubois, c'est de voir comment avait été traduit le mot nègre. Et c'était « Critique of the Black Reason ». Mais le mot nègre, traduit en anglais, et surtout reçu aux États-Unis, c'est un mot qui est d'une extrême violence, en fait. Et il y avait, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'extrêmement intéressant à interroger dans cette espèce d'euphémisation, la traduction du mot nègre par black, en fait, par noir. Et donc, en gros, le double du noir, c'est le nègre, en fait.
C'est ça.
Et qu'est-ce qu'on fait ? Et ce qui était intéressant, en fait, c'était de voir comment se construisait ce langage, comment le noir traînait avec lui son fantôme, de revenir sur un ensemble de mouvements, comment dirais-je, syndicalistes en France, parce qu'il y a eu énormément de mouvements noirs au début du XXe siècle, qui se sont resignifiés politiquement à partir du refus de l'usage du mot noir ou du refus de l'usage du mot nègre, puisqu'utiliser un des termes a toujours une signification politique. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment finalement, là je reprends le terme d'Achille Mbembe, le sous-texte nègre se constituait en opposition avec le mot noir repris en première personne, justement pour écrire, pour proposer une écriture de soi, en fait, qui n'est pas du tout diminuée par la terreur raciale, pour reprendre un terme de Gilroy.
Évidemment, on a l'impression que cette théorie postcoloniale ou décoloniale, elle mène sans cesse une guerre des mots, mais c'est important parce que chaque mot pèse son poids de malentendus, parfois de souffrances. On a parlé du miracle grec, on a parlé de philosophie occidentale, mais même philosophie africaine est un terme que vous assumez comme projet politique, mais qui pose problème.
Tout à fait. Et là aussi, le terme philosophie... Effectivement, quand on fait de la philosophie, quand on produit de la philosophie, on pense, on produit des problèmes, on cherche à créer des concepts. Donc il est vrai que immédiatement opérer une territorialisation forcée des concepts et des problèmes peut apparaître comme une forme de violence sur le discours qu'on produit. Et quand je parle de philosophie africaine, il s'agit en tout cas pour moi dans un corpus ou dans une bibliothèque, justement, qui ne s'est jamais pensée comme africaine, d'introduire de nouveaux auteurs venus d'autres continents. Mais après, pour aller un peu plus loin que cette simple idée de contestation du corpus, je fais partie des chercheurs qui sont extrêmement attentifs à leur positionnement dans le champ des savoirs et au lieu à partir duquel un discours est produit, en fait. Donc moi, je vous l'ai dit, je suis pas une philosophe africaine, ça n'aurait pas de sens, mais par contre, je suis extrêmement attentive à ma situation d'énonciation dans le champ des savoirs et les effets qu'elle peut avoir sur la manière que j'ai de construire mes objets ou en tout cas de les fabriquer.
Au Collège international de philosophie que vous avez dirigé il y a quelques années.
En vice-présidente.
En vice-présidente, pardon, excusez-moi, vice-présidente. Vous avez écrit justement sur ces questions de corpus. Vous rappeliez d'ailleurs l'importance de cette de la maison d'édition Présence africaine en 1949. Et l'article s'appelle Le missionnaire désespéré. Qu'est-ce que c'est qu'un missionnaire désespéré,
Maria Yara? Alors c'est un terme que j'ai trouvé dans les lieux de la culture d'Omni Baba.
Oui.
Et qui me faisait, j'ai trouvé très drôle immédiatement. Parce que il permettait en fait de soulever un ensemble de malentendus autour d'un ensemble de figures justement qui ont été importantes pour la constitution du débat sur l'existence ou non d'une philosophie africaine. Et donc le missionnaire désespéré, c'est le nom. J'ai repris ce terme à Omi Baba pour le coller sur la figure de Temples, essayer de comprendre un petit peu.
Qui est l'auteur de la philosophie bantou, c'est ça?
C'est ça. Qui est l'auteur de la philosophie bantou?
Le premier livre de Présence africaine en 1949.
Exactement, c'est ça. Et qui justement fait une chose. Donc là, je reprends des choses qui ont été dites par Souleymane Bachir Diagne ou autre, mais qui fait une chose, c'est-à-dire qu'il accole deux termes qui peuvent paraître oxymoriques, à savoir bantou et philosophie. Tiens, c'est noir.
Et qu'est-ce qu'ils font?
Ils font de l'Afrique, on fait de la philosophie. Et en gros, il y a quelque chose d'assez novateur, puisque ça veut dire que ces peuplades produisent des univers rationnels, produisent des symboles, produisent des métaphysiques et des ontologies. Et donc, ils produisent des civilisations, en fait. Et donc, voilà, ce livre a été extrêmement important pour cela. Mais là où il a suscité, je pense, des malentendus, c'est que bon, il a eu plusieurs types de réceptions. Une réception religieuse, une réception théologique et une réception philosophique. Et moi, c'est la réception philosophique d'un livre écrit par un théologien au Congo belge dans les années 40, en fait, qui m'intéresse. C'est-à-dire comment, finalement, ce livre, qui est en fait un livre de théologie, a-t-il pu avoir un tel impact, finalement, dans le champ et dans l'histoire de la philosophie. Et je dis c'est un livre de théologie, et c'est particulièrement le livre d'un missionnaire désespéré, ouais. C'est-à-dire d'un missionnaire qui, désespérant d'évangéliser les Bantous, a dû se contraindre à reconnaître finalement qu'il possédait une culture qui a été appelée philosophie, et la reconnaissance de la culture a permis simplement de produire quoi? Une théologie adaptée, c'est-à-dire que dans la culture bantoue, je vois qu'il y a des pierres d'attente du christianisme, et voilà quelle est la thèse en fait de la philosophie bantoue du père Placide Temple, donc une vraie thèse de théologie de l'inculturation, comme on dirait aujourd'hui, plutôt qu'une vraie grande thèse de philosophie. Et ce qui est intéressant en fait, c'est de voir toute l'histoire et toute la réception en fait de cet ouvrage ensuite dans les mondes intellectuels, africains, afro-diasporiques.
Voilà ce que veut dire Africana, donc pas simplement africain, surtout pas africain d'essence, mais afro-descendant aussi. Et voilà ce que veut dire Laetitia Africana, c'est cette joie de penser. Vous allez l'éprouver dès demain d'ailleurs, puisque les ateliers de la pensée commencent à Dakar le 30 octobre. Organisé par Felwyn Sarr et Achille Mbembe.
Oui. Et d'ailleurs, juste si je peux me permettre de revenir sur la question de Laetitia Africana, c'est aussi un artiste en fait qui m'a fait penser à cette idée. Un artiste, un chorégraphe congolais qui s'appelle Faustin Linyekula, qui avait fait un spectacle magnifique il y a quelques années qui s'appelait More, More, More and More Future, c'est-à-dire plus de futur, et qui revenait donc sur l'histoire difficile de la République démocratique du Congo, de l'indépendance à aujourd'hui, et que le seul souhait en fait qui venait confronter à cette histoire, c'était une demande d'encore plus de futur, précisément contre le no futur des punks qui s'est construit en Occident. Les punks finalement d'Afrique centrale demandent encore plus de futur en fait.
Plus de futur, eh bien le futur, ça sera à Kinshasa en novembre 2020, votre biennale que vous co-organisez, Yango. Vous pouvez nous en parler, Nadia Yala?
Oui, bien sûr. Alors cette biennale, je suis co-curatrice de la biennale avec ma collègue et amie Sarah Alonso Gomez, qui est historienne de l'art cubaine. Et on travaille aussi avec toute une équipe, donc l'écrivain Sinzo Hanza, dont je vous avais parlé au début de l'émission, Dada Kaindo, qui est comédienne et qui s'occupe d'une plateforme à Kinshasa d'artistes qui s'appelle la plateforme contemporaine, une chargée de production Muriel Babandisha, qui travaille dans le monde de l'art, et puis nos amis photographes, cinéastes, Mickaël Mayoyo et Isaac Sani. Alors je dis tous ces noms pour vous montrer qu'il y a toute une équipe très forte d'artistes à Kinshasa, très engagée. Et cette histoire de la biennale, elle a une signification très précise, et c'est la raison pour laquelle justement l'écrivain Sinzo Hanza parlait d'une remise en chemin. C'est que il y a une première édition en 2014 Et il n'y a plus rien eu après pour une raison très précise, c'est que l'artiste en fait qui a fondé cette biennale, l'immense photographe Kirippi Katembo, est mort après la biennale. Donc il y a eu énormément de souffrances liées à cette disparition. Et les personnes qui ont décidé de reprendre la biennale sont tous des proches, ou parfois des gens de la famille de cet artiste, ou des artistes qui ont été, soutenus par Kirippi Katembo, etc. Et ont décidé en fait de remettre en marche ce projet, de reprendre donc ce qui avait été initié. Et donc un des enjeux de la biennale, et là où elle est vraiment très engageante et elle pose un ensemble de défis. Donc déjà, qu'est-ce qu'on entend par art contemporain? Comment on se rapporte à l'idée de l'art contemporain sur le continent? Quels sont les lieux de l'art contemporain? Quand vous êtes par exemple dans une ville où les lieux institutionnels et d'exposition sont, je ne sais pas, par exemple l'Institut français ou par exemple le Centre Wallonie-Bruxelles, etc., mais ne sont pas ce qu'on appelle les cités indigènes en fait. Kinshasa est aussi une ville coloniale. Qu'est-ce que c'est que exposer de l'art? Qu'est-ce que c'est que être un artiste? Et qu'est-ce que c'est que finalement diffuser ses œuvres? Donc il est intéressant en fait de faire jouer énormément de lieux, à la fois les lieux institutionnels qui sont au centre, les lieux qui sont pas dédiés à l'art, qui vont être dans des communes où il n'y a pas beaucoup de propositions en fait artistiques. Et un de nos enjeux en fait, ça va être de traverser toutes les communes et tous ces lieux de Kinshasa et de voir comment on peut dialoguer là aussi avec la population et comment elle se rapporte à ses artistes, parce que Kinshasa, et ça c'est une de mes fiertés en fait, c'est que Kinshasa regorge de propositions artistiques, intellectuelles et esthétiques qui raviraient le commun des mortels.
Merci Nadia Yala Kisukidi.
Merci à vous Patrick Boucheron.
Matière à penser, Nadia Yala Kisukidi, Valérie Lavalard, Justine Wild, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascal Devigne, Patrick Boucheron. Merci, bonne soirée.